Bienvenue sur l'Express Anor d'Explore, le festival genevois de la ville de demain. Le politologue et historien Achille Mbembe a ouvert l'édition de juin 2022 avec une conférence sur le droit universel à la respiration. Né au Cameroun, Achille Mbembe est une figure majeure d'une nouvelle vague de pensée critique en matière de philosophie contemporaine et de politique. Professeur invité d'universités prestigieuses et lauréat de nombreux prix, il est à l'origine de la Fondation pour la démocratie en Afrique et des ateliers de la pensée de Dakar. Écoutons-le parler du droit universel à la respiration. Ce concept nous rappelle le lien qui nous unit à travers le globe lorsque l'on parle de changement climatique.
Alors, je ne parlerai pas directement de la ville. Il y aurait évidemment beaucoup à dire au sujet de la ville d'hier, de la ville d'aujourd'hui, et surtout de la ville de demain, que M. le ministre a d'ailleurs évoqué brièvement. La ville de demain, pourquoi ? Parce que, vu des suds du monde, en tout cas, je parlais de la ville de demain dans le sens où, vu des suds du monde, en fait, l'invention et la réinvention de la ville, ce n'est pas terminé. Elle est loin d'être terminée. En fait, une révolution urbaine d'une ampleur, je dirais, totalement inédite, est en cours, en Afrique en particulier. Par exemple, Lagos, dont personne ne connaît le nombre d'habitants, personne ne peut vous dire actuellement combien de gens vivent à Lagos. Il y a des approximations, certains parlent de 23 millions, d'autres de 25 millions. La même chose est valable pour Kinshasa, au Congo démocratique. Idem pour Abidjan, Douala au Cameroun, ou Kinshasa, ou Luanda en Angola. Personne ne sait. On sait que c'est de très grosses agglomérations, mais personne ne peut vous dire exactement combien d'habitants ces villes comptent. Très peu de gens peuvent vous dire avec précision comment s'organisent les services. Comment fait-on dans ces villes pour nourrir au quotidien des millions et des millions d'habitants? Comment est-ce que s'organise, par exemple, la décharge des ordures dans un contexte où les institutions classiques dont jouissent des villes comme Genève, Lausanne ou Zurich n'existent pas du tout, ou là où elles existent, elles fonctionnent, elles dysfonctionnent en permanence, si vous voulez. Et pourtant, chaque jour, la vie ou des vies se construisent, des vies se reconstruisent. Il existe un dynamisme social qui irrigue l'ensemble de la société et qui opère à partir de logiques apparemment désordonnées, incohérentes. Comment est-ce qu'on construit la vie dans des milieux aussi instables et apparemment aussi dysfonctionnels? Et donc, je veux dire qu'il y a une ville qui est en train de se composer, une révolution urbaine, dans des contextes où il ne s'agit pas de la ville du Moyen-Âge. Il ne s'agit pas d'une ville née d'un processus d'industrialisation, comme ce fut le cas au XIXe siècle. Ce sont des villes qui, au fond, n'ont que très peu à voir avec les villes africaines antiques qui dépendaient énormément du commerce à longue distance. C'est une ville souvent sans aucune base fiscale, sans plan, et où plus des deux tiers de la population vivent de l'économie informelle. Mais qui dégage jour et nuit une énergie sociale, une capacité de création, d'improvisation et une capacité de réparation tout à fait originale. Donc on aurait pu en parler, mais je sais que le programme devant vous, disons, vous amènera à discuter de tout cela au cours de la semaine. Et c'est un programme extrêmement fluide, dynamique et très ouvert. Et j'aurais moi aussi aimé y participer plus longtemps que je ne le ferai. Donc je ne parlerai pas de ça, mais ce sera dans le background, si vous voulez. Je voudrais par contre relever l'extraordinaire difficulté que nous éprouvons aujourd'hui, la difficulté de parler de notre époque, de parler de notre condition, de manière détachée, de manière distanciée, de manière froide, comme si ce qui se joue sous nos yeux n'avait rien à voir avec nos existences, avec notre sort. Je trouve cela particulièrement difficile. Je le trouve difficile. Pourquoi? Parce que il y a un fait qu'il est difficile de contester. Le fait est que nous sommes engagés dans une course vertigineuse. Quand je dis nous, je parle du monde en général. Course vertigineuse vers quoi exactement? Nul ne saurait le dire avec certitude. Très peu de gens peuvent nous dire aujourd'hui avec certitude où est-ce que nous allons? Vers quoi, à quoi est-ce que tout cela va déboucher? Autrefois, il y avait des discours qui permettaient de dire où est-ce qu'on allait. Moi, quand je suis né au Cameroun, juste au lendemain des indépendances, on savait où on allait. Nous savions, nous allions vers ce qui, à l'époque, avait pour nom le développement. Nous vivions sous un régime de parti unique. Mais à la fin de chaque année, le gouvernement, aussi autoritaire qu'il était, pouvait nous dire, écoutez, cette année, nous avons construit 100 km de route bitumée. Nous avons construit 200 dispensaires. Nous avons bâti 150 écoles, créé 50 lycées. Ils pouvaient vous donner le détail de tout ce qui avait été accompli. Et tous ces exemples indiquaient que nous étions sur un chemin. Nous faisions des pas. On pouvait mesurer l'écart qui existait entre nos aspirations et les réalisations concrètes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait pas où on va. Et on ne sait pas où ce qui est en train de se passer va nous mener. On vit une condition, je dirais, d'incertitude radicale. Incertitude radicale qui se conjugue à une instabilité quasi ontologique. Instabilité quasi ontologique dans la mesure où nous sommes de moins en moins capables de distinguer la vérité de ce qui ne l'est pas. Le réel de ce qui ne l'est pas. Et donc, un tremblement épistémologique qui affecte fondamentalement le genre d'humanité que nous voulons construire ou que nous pensons être. Et donc cette course, je crois qu'il faudrait la qualifier de dionysiaque. Elle est dionysiaque pour plusieurs raisons que je voudrais résumer en une. parce que ce que cette course met en jeu, que l'on vive à Genève, que l'on vive à Johannesburg ou à Bagdad, ce que cette course met en jeu, je crois, c'est notre responsabilité à tous et à toutes au regard du devenir de la planète. Ce qu'elle met en jeu, c'est le sens, ou certains autres diraient le non-sens potentiel, de notre être sur Terre. Et la question si essentielle de notre propre durabilité. Parce que, pour revenir à la ville, quand on parle de la ville, on parle de la possibilité de notre durabilité. La ville a été inventée précisément pour être la manifestation vivante de notre désir de perdurer. Les bâtiments que l'on a, je ne sais pas quand est-ce que cette belle maison a été construite, mais ici et là, on connaît des bâtiments qui ont été bâtis, justement, comme si il devait être là jusqu'à la fin des temps. Ces formes d'habitation, de construction, qui étaient en fait une manière de sacralisation du temps humain à travers sa greffe, la greffe de ce temps humain, sur le temps géologique d'une part, l'utilisation des pierres, un certain type de matériel, et sur le temps divin lui-même, en tant que le temps divin se définissait par son caractère inépuisable et infini. Et donc, cette quête de l'éternité et ce désir d'immortalité, la ville en était, si vous voulez, le théâtre. Et donc, ce qui se trame dans la condition contemporaine, c'est notre durabilité. Notre durabilité pour une deuxième raison, qui est, et le ministre et Mathias l'ont évoqué rapidement, une deuxième raison qui a trait au fait que nous ne sommes pas l'humanité, nous ne sommes pas si éloignés que cela du temps où il y aura davantage de gaz carbonique à inhaler que d'oxygène à aspirer. C'est ça la conclusion du rapport que citait le ministre, le tout dernier rapport du GIEC. Ce rapport nous dit que, si on le traduit en termes prosaïques, que nous sommes probablement en retard sur ce qu'il faut faire. Et que si rien n'est fait, nous avançons petit à petit vers la combustion de la planète. Ce rapport nous dit que si nous n'arrêtons pas cette course vers le réchauffement et la combustion de la planète, la Terre, avec T majuscule, finira par se transformer en une universelle nécropole. C'est ça que dit le rapport des scientifiques. Mais alors, envisager la Terre comme une universelle nécropole ne veut pas dire que la vie elle-même s'arrêtera. Ça ne veut pas dire ça. Pourquoi ? Parce que la vie, nous, les humains, nous n'en sommes pas les seuls dépositaires. Heureusement. Nous n'en sommes pas les seuls dépositaires. Et si elle n'a pas commencé avec nous, ce qui est le fait, rien ne nous dit qu'elle s'arrêtera avec nous. En réalité, nous ayant précédé la vie, il est tout à fait plausible qu'elle nous survivra. Sous des formes évidemment différentes qu'il est difficile d'imaginer, mais elle nous survivra et continuera sans doute de porter en elle et sur elle les traces de notre éphémère passage. Cela, on peut penser que ce sera le cas. Alors, vous l'aurez remarqué, je n'arrête pas de dire « nous ». Si je dis « nous », c'est bien évidemment pour faire court, puisque ce « nous » n'existe pas encore. Ce « nous », il reste à inventer comme la ville de demain à laquelle je faisais référence il y a un moment. Ce « nous » reste à construire et c'est peut-être l'une des tâches les plus urgentes, mais aussi les plus difficiles de notre histoire présente. Parce que, de fait, de passé commun, les passés communs au pluriel, il en existe. Au fond, nous ne sommes faits que de cela. Nous ne sommes faits que de passés communs. Mais avoir un passé commun ne signifie pas nécessairement avoir un futur en partage. Or, l'époque est non seulement au déni de passé que nous aurions en commun, elle est aussi, cette époque, au raidissement et au désir de sécession. Notre monde est taraudé par le désir d'apartheid. J'évoque l'apartheid ici parce que, évidemment, je vis et je travaille en Afrique du Sud où l'apartheid, c'est-à-dire la ségrégation, était la loi pendant une bonne partie du XXe siècle. Les Sud-Africains vivaient sous un système où il était illégal de ne pas être raciste. C'est ça l'apartheid. Vous n'êtes pas raciste, vous êtes en train d'enfreindre la loi. C'était ça la loi de l'apartheid, la loi de la discrimination, de la ségrégation et de la discrimination. Mais notre époque, nous avions pensé que l'apartheid avait été vaincu en 1994. En réalité, il n'aura été vaincu provisoirement en Afrique du Sud que pour réémerger avec beaucoup plus de force dans le monde. Voilà le paradoxe, un des paradoxes de notre temps. Et donc, là où existent des traces d'un passé commun, nombreux sont ceux et celles qui désormais cherchent à les effacer. Alors même qu'il est de la nature du passé d'être inéradicable. On ne peut pas effacer le passé. Or, de tous les changements qui affectent le vivant en cette époque, il y a deux changements en particulier qui méritent d'être examinés. Si, de fait, l'horizon, c'est de bâtir une terre, un monde dans lequel chacun peut respirer. Et on parlera de la respiration dans un deuxième temps. Pour le moment, j'essaie de partager avec vous un certain nombre de préoccupations d'ordre planétaire qui exige précisément que l'on réfléchisse à ce que j'appelle la politique de la respiration. J'essaierai de faire le lien dans quelques secondes. Et donc, un premier grand changement d'ordre planétaire, c'est évidemment l'éventuelle sorti de l'humanité, de la niche climatique dans laquelle humains et non-humains ont prospéré depuis 6000 ans. On est en train de sortir de cette niche qui a favorisé effectivement la vie sur une planète qui est la seule d'ailleurs où, disons, la vie a été actualisée et elle se manifeste. La seule d'ailleurs dans la galaxie, en tout cas pour le moment, où la vie est possible. La sorte de vie qu'il nous a été donné de partager depuis des millénaires. Évidemment, bien que toutes les régions de la planète ne soient guère touchées de la même manière et au même degré, bien que toutes les régions de la Terre ne soient pas également responsables de la surchauffe, dans la mesure où, par exemple, l'Afrique ne contribue que à 4% du réchauffement planétaire, bien que, évidemment, les conditions ne soient pas les mêmes partout, la surchauffe partout est réelle. Je disais tout à l'heure, parler de l'oxygène qui commence à se raréfier. Et ce n'est pas, disons, une espèce d'hyperbole. Je vous parle de faits avérés objectivement et scientifiquement. L'oxygène commence dans certaines régions du monde, sous certaines conditions, à se raréfier. La radicale vulnérabilité des corps n'est plus perçue comme un accident. Elle est de plus en plus perçue en tant que ce qui nous fait. Ce qui nous fait, ce qui nous rassemble, ce qui établit en nous une parenté manifeste, c'est le fait de notre vulnérabilité. Même si cette vulnérabilité, elle n'est pas vécue exactement de la même manière partout. En fait, cette vulnérabilité, on reconnaît de plus en plus qu'elle est ce par quoi la vie elle-même advient. Or, on aura passé l'essentiel des temps modernes à nier la vulnérabilité, à penser que être vulnérable, c'est être faible, à confondre vulnérabilité et faiblesse. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce qui nous fait. Et c'est ce par quoi le vivant lui-même advient. Donc il y a ça, ce grand moment d'une réalisation, d'une prise de conscience, je dirais à l'échelle planétaire, cette émergence d'une nouvelle conscience planétaire qui progressivement remplace la vieille conscience dite universelle dont on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas toujours été propice à la liberté de tous. Une deuxième prise de conscience, c'est la conscience selon laquelle l'utopie d'une croissance sans limite, des villes comme Genève, Paris, New York, ont été bâties sur cette base-là. À une époque où on pensait que la croissance, elle était illimitée, les ressources, elles étaient illimitées. Les gratte-ciels de New York sont précisément le témoin de cette croyance en le fait que la planète, elle était inexhaustible, si vous voulez. Aujourd'hui, on réalise que tout cela a fait long feu. Étude après étude montre que si rien n'est fait, on se rapproche inéluctablement des seuils mortels. Je veux dire que ce n'est pas seulement les mécanismes de refroidissement du corps humain qui seront en péril, c'est au fond le corps de la Terre elle-même et ses organes vitaux qui défailliront en chaîne. Le troisième grand changement, et on passera donc après ça à la problématique de la respiration, le troisième grand changement qui devrait attirer notre attention à tous, que l'on vive ici ou ailleurs, il a trait, ce changement, au monde dans lequel nous avons d'ores et déjà basculé. Et ce monde dans lequel nous avons d'ores et déjà basculé sera pour l'essentiel dominé par la raison computationnelle. C'est-à-dire, ce monde sera dominé par de gigantesques appareils de calcul qui seront au XXIe siècle ce que l'alliance de l'acier et du béton fut au XIXe et XXe siècle. En d'autres mots, la technologie sera plus que jamais auparavant l'une des forces fondamentales de notre monde. Évidemment, pas au même degré partout, mais partout, sans doute. La technologie octroiera évidemment un semblant d'unité à ce monde, mais elle entraînera également ce monde dans un processus d'écartèlement que l'on observe d'ores et déjà et dans une espèce d'infinie fragmentation. Et à ce titre, la technologie imprimera sa profonde marque sur nos devenirs. La sorte d'être humain qui émergera de cette révolution technologique sera tout sauf l'être humain du 18e, 19e siècle dont on pensait qu'il avait pour faculté maître la raison. D'ailleurs, on se rend de plus en plus compte à quel point est-ce que la raison elle-même, en tant que faculté maître qui nous distinguerait de toutes les autres espèces vivantes, à quel point cette faculté est en procès. J'évoquais tout à l'heure, au début, la sorte de confusion fondamentale qui touche à la question de la vérité, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Ce n'est qu'un élément parmi plusieurs autres qui indique à quel point, effectivement, la raison en tant que faculté est aujourd'hui assiégée. Donc, tout gravitera autour de la technologie. Tout. Les villes, les besoins de première nécessité, par quoi j'entends évidemment la capacité de respirer, parce que c'est la base de tout, tout le reste, par quoi j'entends, pour ceux d'entre nous qui vivent dans les sud du monde, l'accès à la nourriture, l'accès au logement, l'accès à l'eau, l'accès au transport, et ainsi de suite. La question de savoir quelle ville construire, là où, effectivement, ces besoins sont non seulement massifs, mais aussi urgents, se posant comme la question principale de disciplines comme le design, comme l'architecture, et ainsi de suite. Et donc, nous sommes face à ces grands défis. Je voudrais dire maintenant un ou deux mots sur la question qui nous réunit ce soir et qui porte effectivement sur la thématique du droit universel à la respiration. Je voulais dire un ou deux mots à ce sujet parce que tout ce que je viens d'énumérer indique à quel point la sorte de temporalité longue que je viens d'esquisser à grands traits, à quel point il se sera agi d'une temporalité utilitariste. Or, cette temporalité utilitariste qui met l'humain au centre de tout et qui met le reste à son service, cette temporalité utilitariste est diamétralement opposée à une autre temporalité qu'il nous faut appeler la temporalité du soin et la temporalité de la réparation. Et donc, je suis en train d'introduire dans notre conversation de ce soir la thématique de la respiration en lien avec la question du soin et la question de la réparation. Et ces deux questions, du soin et de la réparation, surgissent de notre expérience historique, en Afrique en particulier, et de notre condition commune contemporaine. Ce ne sont pas seulement des questions d'ailleurs, venues d'ailleurs, ce sont aussi des questions nôtres qui traversent nos différences. Chez nous, la différence, c'est qu'il nous faut repenser le soin en contexte accéléré d'urgence. Ce qui peut-être n'est pas, si je le comprends bien, nécessairement votre cas ici, où l'urgence est vraiment l'urgence. Chez nous, l'urgence, c'est le normal, c'est la condition normale. Tout est urgent. Tout est prioritaire. Et donc, la difficulté, c'est que le soin, surtout en contexte accéléré d'urgence, généralement tend à perdre sa signification. Pourquoi ? Parce que il tend à être confondu aux simples réquisites de ne pas laisser mourir. Il tend à être confondu à la nécessité de recourir aux techniques de réanimation. Ne pas laisser mourir, surtout réanimer en vue de la survie. La survie devenant, dans ce contexte, le but immédiat de toute intervention. Or, le soin devrait être plus qu'une simple stratégie de survie. Le soin, proprement entendu, devrait consister à sortir justement de la simple logique de la survie. Il devrait consister à s'inscrire sur un temps plus long, le temps du maintien de la qualité du lien social. Retisser les liens. La logique de la survie, si vous voulez, est tout à fait semblable à la mise sous ventilation artificielle. Cette affaire de ventilation artificielle, on l'a bien vu lors de l'orage viral que l'on vient de vivre, dont on est loin d'être sorti d'ailleurs, et qui n'est pas du tout le dernier orage du genre dont nous allons faire l'expérience dans les années qui viennent. La COVID n'est pas le dernier mot de la sorte de suffocation planétaire, qui nous attend. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a là deux logiques en jeu, celle de la survie et celle plus longue de la création et du maintien de la qualité du lien social. Maintien de la qualité du lien social qui est beaucoup plus qu'un acte de simple réanimation ou de ventilation mécanique. Et donc, lorsque je parle d'un droit universel à la respiration, je ne suis pas en train de préconiser un droit universel à l'intubation ou droit universel à un respirateur. Je ne suis pas du tout contre l'accès équitable à des respirateurs. Mais ce n'est pas de cela que je parle lorsque j'évoque le concept de droit universel à la respiration. D'ailleurs, d'un point de vue médical, on voit bien à quel point est-ce que l'intubation n'est pas nécessairement une machine qui sauve. Et en fait, là où elle sauve, cette machine ne sauve en général qu'une minorité. Et elle en tue peut-être d'ailleurs d'autres. Et donc, je le répète, il ne s'agit pas de militer pour un droit de mise sous coma artificiel de notre planète, comme vous le comprenez très bien. Ce dont je parle, c'est de l'horizon que j'essaie d'ouvrir, c'est un horizon qui nous permettrait de comprendre la respiration au-delà de ses aspects purement biologiques. La respiration comme ce qui nous est commun. Il n'y a probablement rien de plus commun en nous que le fait de respirer. Ce qui nous est commun est ce qui échappe par définition à tout calcul. Et dans ce contexte, le droit universel à la respiration, il faut le penser comme un droit qui est notre sol commun. Par-delà les frontières territoriales qui définissent effectivement les États. Ce serait une espèce de droit qui n'est ni pesable, on ne peut pas peser cela, ni quantifiable, qui échapperait à tout calcul, à toute forme de numération ou d'inscription dans une raison statistique. La raison statistique dont on sait qu'elle domine aujourd'hui nos manières de penser et d'agir. C'est d'autre part une sorte de droit qui ne saurait être appropriable, c'est-à-dire qui ne pourrait être refusé à personne. Pourquoi ? Parce qu'il s'agirait d'un droit au regard de l'universalité non seulement de chaque membre de l'espèce humaine pris isolément, mais du vivant dans son ensemble. Parce que les humains ne sont pas les seuls à respirer. Nous partageons cette faculté avec plusieurs autres espèces vivantes qui respirent elles aussi. Il faut donc le comprendre, ce droit, comme un droit fondamental à l'existence et au partage de cette terre dont nous sommes tous, non seulement des habitants, mais aussi des originaires. C'est-à-dire qu'au regard du droit universel à la respiration, il n'y a plus d'étrangers. Il n'existe plus d'étrangers. Nous devenons tous des autochtones d'une seule et même entité, la Terre, avec T majuscule, dont nous sommes des habitants, avant d'en être des citoyens d'un État particulier. Si on prend cette idée du droit universel à la respiration au sérieux, elle débouche sur cela. La fin de l'étranger. La fin des questions migratoires, par exemple. une conception élargie du cosmopolitisme. Au-delà, la définition kantienne du cosmopolitanisme, qui au fond remet aux États nationaux, entendus comme des entités souveraines, le droit de légiférer sur qui appartient et qui n'appartient pas, c'est-à-dire le droit d'exclure. C'est une sorte de droit, le droit universel à la respiration, qui abolit l'exclusion, du moins à un certain niveau. Au niveau de notre appartenance commune à la même terre et au niveau de l'exigence de partage le plus égal possible de cette terre, partage comme condition de possibilité de la vie et de sa durabilité. Car si on ne partage pas cette terre le plus équitablement possible, on est en train de détruire les conditions de possibilité de l'habitation de celle-ci. Et donc, voilà, si vous voulez, la sorte de conséquence que l'on pourrait tirer de cette espèce de positionnement à la fois philosophique, mais aussi politique. Et donc, comme vous le comprenez, il s'agit ni plus ni moins de recomposer une terre habitable parce qu'elle offrira à tous et à toutes la possibilité d'une vie respirable. Une vie à laquelle, évidemment, l'humanité, mais aussi la biosphère dans laquelle l'humanité et la biosphère ont partie liée. Dans la mesure, et je termine par là, où l'une n'a aucun avenir sans l'autre, ce qui évidemment manifeste de façon insécable le lien avec l'ensemble du vivant. Voilà quelques réflexions que je voulais partager avec vous et je vous remercie pour votre attention.